Je vous laisse tester vos micros.
Test, test.
Bonjour.
Ah, la pince, ça, vous enlever si ça vous dérange. Ouais, c'est
juste... Ok, cool. Et donc, il n'y a pas vraiment... Là, par exemple, ça enregistre. Il n'y a pas vraiment de début. Mais on commence un petit peu... Tu vois, par exemple, la première question qu'on se pose, c'est... Et ça a été votre week-end, par exemple. Ça tombe bien, on est lundi.
Ah oui.
Donc...
Vraie question. Vois,
c'est genre...
ça a été notre week-end. Bah,
ça va,
écoute,
vous avez fait quoi? Vous avez vu des gens? C'était chaud.
Ce week-end, on s'est retrouvés parce que Lucas est parti presque une semaine voir ses parents dans le sud.
Dans le sud de la France.
Dans le sud de la France. Okay.
Ouais. Vers Antibes.
Ah ouais, ouais, ouais.
Donc voilà, on n'a rien fait. On s'est vraiment reposé, on s'est retrouvés. On a retour en Belgique pour Lucas, donc une bonne frite.
Ouais, ouais.
Et des films. De genre, évidemment. Ouais, et j'imagine qu'on en parlera un peu plus tard. Donc voilà.
Okay. Et frites, justement, bah, nous aussi, on s'est fait des frites. À
c'est
la
vrai.
Fois vendredi et samedi. Ah non, dimanche, hier. Vendredi, on était allé manger des frites chez
Fernand. C'est vrai.
Chez Fernand
Hobbs. Oui, oui.
Non, pas Fernand Hobbs.
Non.
Chez Fritcote.
Fernand Hobbs, c'est juste à côté d'où je vais faire du skate.
Bah oui, c'est
ah
ça.
Oui, c'est à côté de Morichard.
Ouais. J'y étais hier.
Ah bah voilà. mais finalement c'est pas on voulait aller là puis on n'est pas allé. On est allé chez Fritcote Fritcoque.
Ouais.
Place Fernand Coq.
Place Fernand Coq.
Ouais ouais.
Parce c'est que... vrai qu'il faudra qu'on parle du skate aussi.
Ouais. Oui, non. On a une petite liste.
Et la checklist.
Attends, je vais mettre le casque.
Oui, comme ça t'entends que ça enregistre toujours.
Amour,
amour,
gloire.
Chips.
Gloire.
And chips.
Chips.
Et c'est ça, donc tu reviens de France et vous vous êtes retrouvés. Et toi, tu...
Ah, t'es resté tenir la boutique.
Oui, je suis restée tenir la boutique et les animaux à la maison. Voilà, rien de fou.
C'est ça.
Donc, tu te lèves pour le travail.
Il faut quelqu'un pour... On se relaie de temps en temps. Momo, elle a fait le grass pop.
Exactement.
Ah ouais.
Là, il a fait il y a quelques semaines, ouais.
C'est ça.
Et moi, je suis allé chez ma mère.
Okay.
On devait aller ensemble, mais c'était horriblement cher, les prix des trains et tout. On voulait aller ensemble avec les chiens, et je pense que pour l'aller-retour, juste le train et les billets, c'était 700 euros, un truc comme ça.
Ok. Ah ouais.
Juste pour vous deux et les chiens.
Juste pour nous deux.
Oui. Okay. Donc, on te parle beaucoup de, oui, il faut des alternatives plus écologiques, mais.
C'est ça.
En même temps.
Quand tu veux le faire, c'est un peu galère.
Quand tu veux le faire, c'est impossible, quoi. Alors que, désolé, mais pour de la classe ouvrière qui travaille beaucoup, pour 700 euros, on peut avoir genre un Airbnb et un billet d'avion pour aller à Barcelone. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de... Ouais,
c'est ça.
Pour 700 euros, on s'est booké une semaine.
Ouais.
Finalement, on ferme aussi une semaine à la fin du mois, là.
Ouais.
Normalement, on fermait deux semaines d'habitude. On a décidé de fermer qu'une semaine parce que les autres années, enfin non, surtout l'année dernière, on a croisé plein de gens qui nous disent c'est mort, mais en même temps, il n'y a aucun endroit pour aller boire un café, machin, etc. Enfin, il y a quelques endroits qui restent ouverts.
Mm-hmm.
Mais la
mais
plupart
la majorité
du temps,
sont fermés.
Fin juillet, début août, c'est mort. Donc, on s'est dit, on va rester ouvert. Puis finalement, comme on est quand même une petite équipe et qu'on doit assumer les remplacements de nos employés, parce que tout le monde veut aussi prendre des vacances, on a quand même dit qu'on allait fermer une semaine fin juillet pour plus ou moins mettre tout le monde au même moment.
Ouais.
Sinon,
ouais.
C'est déjà comme ça. Moi, elle va faire plein de remplacements cette semaine.
Là, j'ai trois semaines à 6 jours sur 7.
OK. Mm.
Donc voilà, c'est tout à fait normal et ça me dérange pas, mais c'est juste que du coup, je suis contente parce que là, je mets 3 semaines, 6 jours sur 7, mais je sais que la récompense est une semaine avec lui en Ardennes avec les chiens.
Ah,
donc
ouais.
Voilà.
Très bien. Ok, super. Et le grass pop, alors, c'était comment?
Pardon. Le grass pop, c'était super.
Ouais.
C'était vraiment super chouette. C'était mon premier festival sobre.
Ah, ouais.
Et du coup, c'était une expérience vraiment très, très cool. Parce que j'ai toujours fait les festoches, bah voilà, avec une 50 dans la main, n'importe quelle heure, on va dire. Et pour des raisons personnelles et tout, j'ai arrêté. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je crois que ça a presque même embelli mon festival.
Ok.
Du coup, parce que je me réveillais, j'avais pas mal à la gueule.
Ouais, t'étais plus d'attaque, quoi.
J'étais plus d'attaque. Je mangeais bien. J'étais en pleine forme. J'étais présente et. Et du coup, aussi, comme il y a un décalage avec les gens qui boivent beaucoup, à 22h30, t'es là, genre, bon, bah, je vais aller dans ma tente.
Ouais.
Donc, je faisais des vraies nuits, quoi, ouais. 23h, 9h du matin.
Mais c'est vrai qu'on parle souvent de sobriété dans ce podcast, parce
c'est
que Maureen et moi, on boit plus d'alcool. Moi, depuis, je sais pas, 5 ans maintenant, un truc comme ça.
Ouais.
Et dernier épisode, c'était avec Christelle qui, elle, fait la fête à fond. Ouais. Elle en boit plein.
Elle en boit plein.
Et juste avant, c'était Ino JP, un stand-upper, qui lui aussi, est, pour, bah aussi lui qui a décidé, qui avait besoin d'arrêter pour des questions de.
C'est, il plutôt utilisé... de terrain addictif.
Ouais. Oui, c'est ça. Il était, il est, ouais, c'est un terrain addictif. Et donc, qui est aussi sobre depuis plusieurs années. Et ça revient souvent. Ouais. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, mais c'est sur, pendant un des podcasts qu'on a enregistré avec Fanny Ruet, qui est aussi une stand-upeuse, comme ça, ouais. en 2019, que c'est pendant l'enregistrement de l'épisode que j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Parce que, au fur et à mesure de la discussion, j'avais évoqué que j'avais déjà arrêté plusieurs fois avant et que je trouvais ça super et que je me demandais pourquoi je continuais à boire. Alors que c'était super quand je buvais pas. Et puis hop, j'ai arrêté de boire en direct, enfin en faux direct.
En direct.
En direct pendant un podcast.
C'est la pression sociale qui te retient au début, j'imagine.
C'était un peu... En fait, ouais, en plus, bah, comme à ce moment-là, moi je tournais beaucoup avec mon groupe. Et que quand t'es un groupe en tournée, tu bois tout le temps en fait.
Ouais.
Et c'était à la fois une des raisons qui me faisait arrêter, c'est que tu commences à boire à 14h quand t'arrives à la salle, parce que tu fais les soundcheck, tu rencontres l'équipe technique et tout. Et puis tu restes jusqu'à 2h du mat, tu bois jusqu'à 2h du mat. Donc en gros, tu bois non-stop. Puis le lendemain, bah, tu te lèves à 8h, t'as un peu mal au crâne. Et tu roules jusqu'à la salle suivante. Et tous les jours, tu bois de 2 à 2.
Mais moi, ce que je disais à Lulu, c'est un peu ça, en tout cas pour moi personnellement, c'est que... c'était pas vraiment des problèmes d'alcoolisme ou quoi que ce soit, même si l'alcoolisme en soi, ça doit vraiment pas être un tabou. Je trouve qu'on doit vraiment en parler de manière chill. C'est comme la santé mentale ou la dépression, etc. Mais c'est juste que c'est vrai que je remarquais que, comme tu dis, en fait, c'est un peu genre la... Enfin, comme disait Lucas, un peu la pression sociale. Je sais pas, tu vas bosser le lundi, t'as une journée un peu de merde. Tu rentres, tu te dis, faut aller un petit verre de vin devant la télé. Puis, lendemain, si t'es fatigué, le soir, le lendemain, t'as de nouveau un petit peu mal à la tête. Mardi, rien. Mercredi, oh, je vais à un concert au Bota. Une pinte, deux pintes, trois pintes, et des 33, tu vois, mais voilà. Donc, lundi, t'as bu. Mercredi, t'as bu. Ensuite, après, jeudi, rien, peut-être. Vendredi, oh, je vais aller boire un coup avec des copines. Vendredi, tu vas boire des coups. Et voilà, et c'est parti. En fait, tu te rends pas compte, mais tu bois en moyenne 3-4 fois par semaine. Et je sais que moi, par exemple, j'avais des problèmes de dépression et du coup ça accentuait mes symptômes et depuis que j'ai arrêté ça va beaucoup mieux. Donc voilà, et je crois que c'est comme tu dis un truc super sinueux, en fait on s'en rend pas compte et voilà. Et je connais des gens aussi qui, même si je pense qu'on associe trop l'alcoolisme, ça c'est Lucas avec j'en ai parlé assez longuement, c'est lui qui m'a expliqué qu'on associe l'alcoolisme au fait d'être directement, tu penses à quelqu'un qui est complètement torché, qui fait tout et n'importe quoi, qui tombe dans les pommes, qui a aucun souvenir. En fait, l'alcoolisme, ça peut être un verre de vin tous les soirs ou même une bouteille de vin tous les soirs. Et tu peux tout à fait parler, mais c'est juste que
juste de pas tu en as besoin. Passer,
exactement. Et donc, voilà. Donc, oui, voilà. C'est ça. Ça, c'est le truc de ma...
Mais j'ai l'impression qu'aussi, c'est des... Enfin, qu'il y a aussi beaucoup plus de tentations, justement, pour les gens, et dans l'horeca, et dans le rock, enfin, ou dans la musique, de manière générale. Enfin, que tu vois que c'est justement des endroits où, je vais pas dire l'alcool coule à flot, mais voilà, que c'est quand même peut-être plus présent que... Enfin, après, j'en sais rien. J'allais dire que dans la vie d'un cadre moyen, j'en sais rien. Je suis pas dans la vie d'un cadre moyen. Donc...
Non, mais je pense que par rapport à nos boulots, effectivement, c'est plus facile, tu vois, genre... ouais, fin de service, une petite bière... T'as un chiffre de merde, enfin je parle pour moi parce qu'on a un coffee shop donc on fait des mimosas, ça m'arrivait des fois genre vraiment avec des clients mais genre c'est rare mais quand il y en a, waouh, on dirait ils en volent pour 10 quoi tu vois, ils sont trop chiants, il est 11h45, t'es en mode genre oh vas-y je me fais un mimo tu vois, c'est juste un mimo donc tu te dis c'est du cava avec du jus d'orange mais ça reste de l'alcool tu vois, donc ouais.
C'est ça, mais ouais, et puis mais je crois que comme tu dis hein, c'est vraiment dans tous les milieux, dans tous les métiers, ça tu vois, tous tes cadres, tu finis à 16h, tu vas boire un coup avec tes potes avant de rentrer chez toi. Et...
Oui, c'est ça, ou les dîners d'affaires, ou les trucs ainsi.
Et il y a de l'alcool tout le temps, partout, quoi. Moi, je m'étais fait la réflexion, mais tu nais, et le premier jour de ta naissance, on ouvre une bouteille de champagne, boum, alcool, quoi. Enfin, on te le donne pas à toi en tant que bébé.
En tout cas, en France, je sais pas si tu sais, quelqu'un est français ici?
Non.
Non, il y a que moi. Bon, bah voilà. En France, il y a un truc, c'est hyper intéressant ce que tu dis.
Moi, je suis pas français.
Non, lui, ah, d'accord, t'es pas français. Ça va, il le dit vraiment, genre, moi, je suis pas français.
Mais non, mais c'est parce que, comme tes parents étaient dans le sud.
Je pars de ce podcast.
Je m'en fous. Je suis...
Non, mais mes parents, ma maman a déménagé dans le sud.
Ouais, c'est ça.
Mais je viens de Mons.
Ah, d'accord.
Ce qui est pas beaucoup mieux.
Et du coup, ce que je voulais dire, c'était que tu vois, tu dis oui, quand un enfant naît, on ouvre une bouteille de champagne, mais il y a même genre une tradition en France, et c'est vrai que quand tu bois ta coupe de champagne, tu trempes ton petit doigt et tu mets dans la bouche du bébé.
Ah, donc, super.
tout explique pourquoi je suis comme ça, Lucas.
Voilà.
C'est pas ma faute.
Non, mais c'est vrai. C'est très culturel aussi, je crois, et que il faut un peu essayer de s'en détacher ouais. un petit peu, je pense. Ouais, voilà. Ouais. Après, là, j'ai pas arrêté l'alcool pour toujours, mais je veux dire, en tout cas, j'arrête que ce soit automatique. Dès que je vais boire un verre avec quelqu'un, oh, allez, un petit verre de vin. Non, je peux aussi prendre un mocktail, par exemple.
Et
donc là, vous avez déjà un peu, évoqué justement le coffee shop, mais peut-être avant d'en venir à la création, le pourquoi, le comment ça se passe, comment vous gérez ça, parce que vous êtes à deux à la tête de Lucifer. J'imagine le point de départ, c'est votre engagement, votre manière de vivre, le véganisme qui vous a mené vers ça. Je sais pas qui veut se lancer depuis combien de temps, comment, pourquoi, enfin.
Pourquoi, comment on est arrivé au café? C'est ça que tu veux dire?
Moi-même d'abord
plutôt,
au véganisme.
Ouais, plutôt.
En fait, je pense que ce qui serait intéressant, mon cœur, c'est que d'abord peut-être t'expliques. D'où est venue l'idée de lancer un coffee shop.
Ouais.
Par la suite, on peut peut-être parce que ça a commencé comme ça en soi.
C'est un peu long, mais en soi, on va dire.
On a du temps.
Résumé, je travaillais dans un café.
Mm-hmm.
Et en gros, j'étais gérant à ce moment-là, donc c'est un peu moi qui gérais le machin. Et le patron était pas trop concerné. Et en gros, il y a quelqu'un qui était client qui un jour m'a pris à part et m'a dit « Ah, je dois te parler, machin. J'aime vraiment bien la vibe, etc. de comment tu gères le truc, etc. » Il dit « J'ai un local en trop. » Enfin, il sait plus quoi en faire. Et il dit « J'aimerais bien faire un café dans cette rue. » Ça devait être une rue du centre-ville.
Mm-hmm.
Et il dit « J'aimerais bien faire un café et j'aimerais bien que tu gères le truc. » On monte ça à deux. Il dit « Mais après, c'est toi qui es lancé. C'est toi qui as le... » c'est ton café, mais bon, voilà. Mais on est à deux dedans. Et en fait, je crois que l'idée aussi derrière ça, c'était de ramener quelque chose d'un peu différent dans la rue pour avoir plus de passages aussi.
Ouais, ouais.
Mais, au final, ça fait longtemps déjà, mais, je pense que ce qui a fait que ça tombe à l'eau, c'est qu'il y a eu les attentats.
Mmh. Mmh.
Le projet de piétonnier en même temps,
ouais.
Qui au début les gens étaient très réfractaires. Maintenant, quand tu vas au piétonnier, ouais. Il y a 300 milliards de personnes. Les gens étaient très réfractaires, donc il y a eu très mauvaise presse. Puis ensuite, il y a eu les attentats. Et en gros, comme cette personne qui a un magasin dans le centre-ville a subi une grosse perte de chiffre d'affaires, je pense à cause de tout ça.
Mm-hmm.
À un moment, moi qui étais en train de tout monter, machin, permis d'urbanisme, enfin tous les trucs les plus chiants, à un moment m'a dit, malheureusement, ça a plus pouvoir se faire.
Pour des questions d'argent ou des trucs.
Voilà, il savait plus investir, exactement. Et en même temps, Momo et moi, on était ensemble. Et je lui disais, je vais faire comme ça, comme ci, comme ça. Et en fait, au début, quand j'avoue, il m'a approché, on n'était pas encore vegan. Je pense qu'on était végétarien.
On était végétarien, ouais.
Et alors, du coup, en même temps, Momo, elle travaillait dans les magasins. Et puis, à un moment, elle a commencé à se lancer dans la cuisine végane en soi, pour mettre ça au sens large. D'abord, c'était la pâtisserie surtout. Hein.
Ouais.
Mais du coup, elle s'est lancée dans la pâtisserie végane. Et donc, elle a commencé à faire des petits trucs, machin et tout. Et puis, on s'est dit, ce serait trop bien qu'on fasse ensemble. Toi, tu fais à manger. Et moi, ouais. Je m'occupe du reste, entre guillemets, enfin, du bar.
Mm-hmm.
Il y a la bar et cuisine, voilà. Comme ça, comme on divise.
C'est parce que de base aussi, je fais une petite parenthèse. Et après, moi, je parlerai du projet. Mais c'est à la base, ça devait vraiment être... Comme vous voyez le projet maintenant, on en parlera après, ça devait juste être café, gâteau.
Mmh. Ah oui.
Ouais.
Comme vous pouvez le voir, c'est parti en freestyle. Mais on y viendra plus tard. Mais à la base, ça devait être juste ça. Donc
voilà.
un petit coffee avec deux, trois gâteaux. Ouais.
Et le moment où c'est tombé à l'eau, déjà, on a perdu beaucoup de temps parce que les permis, parce que j'ai un peu dû courir après la personne. Et au final, quand c'est tombé à l'eau, c'était un peu... ça nous a un peu mis au sol, entre guillemets. Ouais. Sauf que j'ai dit bon allez c'est bon on s'en fout on va chercher un autre local de toute manière il investit plus enfin quand il avait dit qu'il investissait plus on avait quand même continué on s'est dit ok on prend quand même le local on lance le projet puis on a perdu le local c'est ça que j'ai oublié de dire il a dit ah non finalement c'est pas possible dans ce local et tout donc bon là c'était vraiment
là, c'était un gros coup pour nous parce que
voilà.
Moi j'étais manageuse d'un magasin de fripes pardon excusez-moi j'ai pas l'habitude mais donc pendant tout ce temps quand même on a mis de l'argent de côté etc et du coup nous on changeait complètement de carrière on s'est dit c'était quand même risqué pour nous de se dire on quitte quand même deux postes de management pour se lancer en tant que salarié, en tant qu'indépendant, dans un truc qu'on dans l'inconnu complet. Et voilà.
Bon, moi, j'avais pas vraiment quitté parce que je me suis totalement fait niquer par un patron horrible.
Non, bien sûr,
qui
mais
bon. Qui m'a viré le 24 décembre. Donc, voilà.
Finalement, il nous a bien rendu service. Je ne dirai pas de nom, mais.
Mais karma. C'est aussi en travaillant pour des patrons un peu.
Oui.
Ça façonne aussi ta manière
de travailler dans le
futur. Comment tu vas être après, en fait. Mm-hmm. Et c'est de te dire, est-ce que je reproduis un comportement pareil ou pas? Et la réponse est oui. Non, voilà, j'avoue que je me suis fait licencier. Et puis, en fait, je crois que comme on était un peu, on s'est lancé en partant de rien. J'avoue que on a fait toutes les erreurs qu'on aurait pu faire. On a pas pu éviter, voilà, plein de choses. Donc ça a pris vraiment du temps pour se relancer, surtout que on a perdu notre endroit. Donc on part à la recherche d'un nouvel endroit, ça veut dire on part à la recherche d'un endroit, on doit refaire les démarches administratives, sachant qu'on n'avait pas d'argent. Donc en fait, il nous fallait bien souvent les locaux Horeca. Il faut tout le temps mettre un genre de pas de porte un rachat de commerce, et comme on n'avait rien, ben voilà. Donc ça a été vraiment compliqué. On a retrouvé un autre local qu'on a perdu, puis on a trouvé un troisième local qui nous est passé sous le nez à un jour près.
Ce qui est quand même bien aussi d'être en binôme, c'était que par exemple, tu vois tout ce qu'il tout ce qu'il explique là. Faut savoir que ça a duré vraiment sur un an, des hauts, des bas, etc. Mm-hmm. Et d'être à deux, franchement, ça nous a aidé parce qu'il y a des moments comme ça quand on a perdu de nouveau le troisième local qui nous est passé sous le nez à un jour près, c'est très dur, quoi. Ouais. Moi, j'étais en mode tant pis, j'abandonne et tout. Et lui, il a cherché, il a été sur ImmoWeb, il a dit, viens, j'en ai trouvé un dans les Marolles, etc.
Ça coûte rien.
Il me manque les photos, il me dit, ça ressemble à rien, mais allons-y. Et en fait, c'est le local maintenant.
Ouais.
Mais donc, c'est ça aussi, quand tu demandais ce que ça faisait d'être en duo, des fois, ça marche pas, mais pour nous, ça marche bien. Mm-hmm. Mais bon, on y reviendra plus tard. Mais dans tous les cas, voilà, c'est bien. T'as toujours quelqu'un pour te remonter un peu et pousser le truc.
C'est ça.
Voilà. Après, je sais pas si et pour le véganisme, du coup, ben en vrai, par contre, là, je dois dire que c'est tout à fait Momo. C'est juste que
t'avais déjà essayé toi déjà.
J'avais été un peu végétarien. Et puis, mais ouais, je sais pas. J'ai été végétarien, mais sans vraiment me poser les questions, sans vraiment.
Ouais, c'est des petits chiens. Il y a des petits chiens.
Ils disent merci de loin.
Ils peuvent venir dans le podcast. Non, j'avais été végétarien, mais bon, bref, un truc très bref, sans savoir vraiment pourquoi. Et puis, c'est un peu Morgane qui m'a fait un peu plus réfléchir en soi. Et du coup, ça a commencé petit à petit. Mais je crois que ça a été vite, par contre, on a été végétarien une courte période.
Oui, une très courte période.
Et puis moi, je disais, ah ouais, mais machin, je veux mettre du fromage. Ah non, j'ai dit des trucs du style que des fois j'entends sur des excuses de personnes.
Et maintenant,
ah
ça
ouais,
te vénère.
Du fromage sur mes pâtes. Non, des pâtes sans fromage, ça va pas ou quoi, machin et tout. Bref, du jour au lendemain, j'ai dit, ah ouais, non, j'en mets pas. Ah, où Morgane, elle disait, ah, je vais faire un truc vegan, mais si tu veux, machin et tout. J'ai dit, bah non, je mange comme toi et tout. Et puis, j'avoue que Momo était plus dans le militantisme, etc. Et vraiment dans la recherche d'infos et de vidéos. Et moi, j'avoue que je le dis de manière que j'en ai pas eu besoin. Je veux dire, je sais que...
on en avait discuté aussi.
J'ai pas envie de participer à ça. Mm-hmm. Et j'ai pas besoin de voir des vidéos d'abattoir Bah, j'en ai vu, mais.
Oui. Mais c'est pas notre kiff d'aller les chercher, quoi.
Oui, oui.
J'en ai regardé quelques-unes, mais voilà. Mm-hmm. Et du coup, pour le véganisme, je dis nous, mais enfin, comme il dit, c'est moi qui étais la première, entre guillemets. J'ai été dîner chez une copine à moi qui était végane à l'époque, qui ne l'est plus, mais malheureusement, mais qui était végane à l'époque. Et bon, faut savoir que moi, je ne faisais pas partie des gens qui mangent de la viande qui étaient chiants avec les végétariens. Voilà. Il y en a, ils sont vraiment relous. Moi, pas du tout. Moi, franchement, voilà. Donc, on a eu une discussion et j'ai commencé à lui poser des questions parce que ça m'intéressait. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas.
Mm-mm.
Vraiment. Je ne comprenais pas pourquoi la viande, à la limite, je disais, OK, la viande, je peux comprendre, mais le fromage, le lait, je comprends pas, les œufs, vraiment, ce que tu viens m'expliquer. Et du coup, donc, on a bu une bouteille de vin blanc chez elle et puis elle est cuisinée, des pâtes au pesto vegan et puis, et donc voilà, on a eu cette discussion, puis on a été se coucher, on a regardé Sex and the City, voilà. Et je sais pas, ça a planté une graine dans mon cerveau. Et puis voilà, les jours sont passés et je dis tiens, j'ai quand même Et le truc de base, hein, tu tapes viande, fromage, comment fait-on le fromage, vegan et tout. Et là, tu tombes sur des trucs. Et en fait, c'est comme si t'avais un rideau qui s'était ouvert. Mm-hmm. Et en plus, après, c'est un puits sans fond, quoi. Tu vois, tu te rends compte que... Enfin, je veux pas faire du militantisme, hein. J'explique juste mon parcours, mais
tu pourrais, hein.
Je veux dire, c'est la viande, et puis les œufs, et puis le lait, puis après tu découvres le cosmétique, puis tu découvres les médicaments, et puis tu découvres les expériences, et puis tu découvres la fourrure, et puis tu découvres le cuir, et puis c'est un truc, mais abusé, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, mais voilà, quoi. Mmh. Et donc, moi, je sais qu'à un moment, c'est un peu genre dans la même vibe par rapport à l'alcool, c'est que je me suis dit, tiens, je vais voir combien de jours je tiens sans en manger. J'ai pas voulu me dire, j'arrête. Mm-hmm. Parce que je trouve que tu te mets trop la pression et c'est comme ça déjà que tu te déçois toi-même. Mm-hmm. Tu te mets des goals inatteignables, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais voir combien de temps je vais tenir, et j'ai tenu quelques semaines. Et puis Lucas, voilà, comme il a dit, il a fait, non, c'est bon, je mange comme toi, etc. Mm-hmm. Et puis pareil, moi, j'ai arrêté le fromage et le lait un peu plus tôt que lui. Pas beaucoup, hein, je dirais 1 ou 2 mois mm-hmm. avant lui. Et puis en fait, donc je continuais à lui acheter du fromage parce que, oui, moi, j'en mangeais pas, mais j'étais pas encore à ce moment où j'étais là. Non, en fait, je ne dépense pas 1 centime dedans, c'était le début. Et puis en discutant, il me disait, ah, mais pourquoi t'en manges pas ? Je lui disais, et en fait, on n'est pas du tout éduqué à comment est-ce qu'on fait du lait et d'où ça vient. Et je me souviens, quand je lui expliquais d'où venait le lait, il était là, genre, oui, j'avais pas du tout. Donc il a fait, ok, c'est bon, j'en veux plus. Mais c'est vrai qu'il a pas eu ce besoin de... J'ai pas dû lui montrer des vidéos, quoi. On en a mmh. discuté et il était en mode genre, ok, c'est horrible. Ok, voilà, c'est bon, mmh. bye. Donc voilà. Et du coup, bah, par rapport à la cuisine, c'est juste que j'ai toujours adoré cuisiner. Je suis très gourmande. Et du coup, bah, j'ai commencé à tester parce que je voulais simplement, bah, trouver des alternatives. Donc, aussi en essayant plein de marques, etc. et aussi en faisant les choses moi-même. Et c'est vrai qu'au début, j'ai commencé à cuisiner, bah, pour mes amis. Puis j'ai commencé à faire des petits tests de gâteaux parce que j'adorais la pâtisserie. Et, de fil en aiguille, franchement, ça s'est fait un peu genre, mes amis étaient là, oh, je peux pas me faire un gâteau? Est-ce que je peux commander un gâteau pour un anniversaire? Et en fait, je me suis rendu compte à l'époque, il y avait rien. Mm-hmm. Je vous parle de ça, c'était il y a 7-8 ans. Et en fait, il y avait genre aucune demande ni quoi que ce soit. Et c'est là aussi où en fait, ça a rejoint avec le projet du café. Ouais. C'est qu'il, je lui disais, ah, donc il commençait à regarder pour des fournisseurs. On commençait à regarder un peu la carte, etc. Et puis il me disait, ah, du lait. Je vais quand même prendre du lait de vache. Et puis finalement, il me dit, ouais, en fait, non, c'est bête parce que, en fait, ça me dégoûte. Donc en fait, tu sais quoi? Non, tant pis, on va faire un truc 100% vegan, etc. Et donc, on a commencé à en parler autour de nous. Et puis moi, bah, je militais beaucoup à l'époque. Donc, j'avais.
C'est juste que, parce que le truc de prendre du lait de vache, enfin, quand je réfléchis à ça maintenant, je trouve ça tellement aberrant, mais c'est juste que je n'avais pas trop la conscience de est-ce que les gens, enfin, moi qui ai travaillé dans les cafés, qui n'était pas très alternative, je vois que on avait du lait de soja. La clientèle qui prenait le lait de soja, c'était une infime partie. Ça dépend des quartiers, ça dépend de machin, ça dépend de la mise en avant aussi. Et en fait, du coup, quand j'ai dit au début, ah, on fait un café vegan, etc. Ah, je vais quand même, enfin, un café vegan. Non, mais on fait tout vegan, mais je vais quand même proposer du lait de vache pour les gens avec les cafés. Parce que je me disais, les gens vont pas vouloir venir boire des cafés s'il y a strictement que du lait de soja. Parce que c'était il y a déjà un moment, donc c'est pour
moi. On parle d'il y a 8 ans, c'est
ouais,
tu vois.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, ouais. Et puis après, un moment, je me suis réveillé, j'ai dit, mais, pff, c'est con, ouais, ouais, c'est ouais. N'importe quoi.
Mais faisons une crever. Parenthèse dans la parenthèse. Déjà, qui sont ouais. ces gens qui mettent du lait dans leur café? Non, qui êtes-vous? Déjà. Dénoncez-vous. Ouais.
Bah, moi, des fois, je bois des cappuccinos, c'est vrai. Donc, je fais partie de ces gens. Mais je veux dire, donc, du coup, par rapport aux échos du café, c'est que du coup, bah, j'étais très militante, etc. Donc, j'étais beaucoup dans les milieux, j'allais faire des happenings. Enfin, j'ai fait vraiment des choses assez vénères à l'époque. Et quand je parlais autour de moi, je vais ouvrir un café, et les gens étaient là, tu vas ouvrir un café à Bruxelles? C'est pas vrai et tout. Putain, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, on m'a dit, tu fais des gâteaux, etc. En fait, de fil en aiguille, ben, en fait, ça a été assez vite, ça s'est beaucoup accéléré. Et on a commencé à faire des marchés avec uniquement des gâteaux au début. Et puis voilà, en fait, c'était, ouais.
Je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais on a
fait,
oui,
c'est très flou, mais oui. Un Insta.
Le jour du concert de Swans, d'ailleurs, au Botanique.
Ouais, au Botanique, ouais, okay. C'est vrai. C'est notre première photo, ouais.
Mais en tout cas, on avait fait une page, mais est-ce qu'on avait déjà fait des événements? Non, je crois pas.
Non, c'était avant.
On avait fait une page, et puis après, c'était plus pour les commandes des gâteaux, etc. Mm. Et puis là, on a commencé à participer à des trucs. Il y avait un tattoo shop à Mons, justement, qui faisait un
genre de
festival
vegan.
Vegan, à gauche, à droite. Okay. Et alors, surtout gros clin d'œil à un ami à nous qui nous a permis d'être tous les week-ends dans un musée à Bruxelles.
Le musée Bellevue.
Il nous a juste dit, vous voulez une table, vous voulez faire genre comme un stand tous les week-ends. Et en fait, on avait un stand et on a pu économiser de l'argent qui nous a permis d'acheter la machine à café. Enfin, moi, j'ai travaillé aussi.
J'ai pu m'acheter un plus grand robot, etc. Petit à petit, donc vraiment en mode...
Tout ça, c'était avant l'ouverture Rue Haute.
Tout à fait, ouais.
Et c'était, donc, ça c'était complètement... Pour arriver à ça.
Et justement, pour nous aider aussi, en attendant que les permis d'urbanisme, etc. arrivent, tout ça, ça nous permettait de continuer à payer le loyer vite, parce que ça, c'est aussi une réalité.
Ah bah oui, vous deviez payer pendant les travaux et tout ça.
Même avant les travaux, il fallait le permis d'urbanisme, etc. En fait, il faut savoir qu'à Bruxelles, et je profite du podcast pour le dire, je suis une zinzin, moi, j'ai pas peur des répercussions.
Tu dis tout haut ce que les gens pensent tout bas.
C'est pour ça qu'il faut pas dire mon nom de famille. Non, mais c'est vraiment... c'est abusé, quoi. Vraiment, et... Oui, non, c'est abusé. On a eu rendez-vous avec un échevin à l'époque qui nous a clairement dit, c'est vraiment un délire, quoi. Je peux pas dire de nom, mais vraiment, je peux pas dire de nom, mais bon, bref, que un de ses grands amis, voilà, il organise quand même des choses à Bruxelles. Je peux pas dire quoi, voilà, mais des événements électroniques, Mont des Arts et tout ça, musique électro. C'est pas grave. Et il a plein de coffee shops. En tout cas, il en avait plein. Maintenant, il en a plus beaucoup. Oui, il a pas ses permis d'urbanisme, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, ça marche bien, puis il ramène du monde, et voilà, je vais quand même pas, voilà. Et nous, qui voulions faire les choses dans les règles.
Ouais, ouais.
Il fallait qu'on attende un an pour avoir un papier. Ok, pas de souci.
Le même gros connard qui m'a viré.
Ah, c'est lui.
Allez, on dit les termes, c'est parti, on tire un balle réel.
Mais de toute façon, on peut couper le nom, mais c'est.
Non, c'est...
Ah oui, c'est lui, c'est l'autre.
C'est l'autre. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a deux à Bruxelles.
Ouais,
c'est ça. Et...
Exactement.
C'est le code de quand on met des bips.
Notre
code.
C'est
les deux gros.
Oui, oui, ça va, merci. C'est... Enfin, parce que voilà, mais il sait qu'on le déteste, et je veux dire, voilà. Il n'y a pas de secret.
Ah oui, oui, moi, c'est clair qu'on s'est pris la tête de vive voix, machin, et par après, par téléphone, etc.
Oui, il m'avait harcelé, tout, c'était dingue.
Je l'ai environ exposé sur les réseaux sociaux et tout, machin. Parce que bon, à un moment, quand tu.
Quand tu pousses le bouchon
quand
un peu trop loin,
quand tu continues à faire de la merde, ouais, c'est quand même intéressant de dire aux gens, fais attention, tu postules là, tu vas être mal payé, tu vas être maltraité, tu vas check. Moi, je trouve que c'est normal. Pour moi, c'est pas un tabou. Au final, on était là, ouais, non, mais ne parle pas de ça, on sait jamais et tout. Mais après, j'étais en fait, je me dis, mais comment tu peux pas, tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu t'es une femme, tu travailles dans une boîte, tu te fais harceler sexuellement et puis tu dis, ouais, non, je vais pas dire de nom,
C'est ce que j'allais dire. J'allais passer un petit message subliminal à tous les mecs toxiques problématiques. Vous inquiétez pas, on s'échange vos noms en DM. On sait
ça,
qui vous
c'est
êtes.
Clair, y a pas de souci, vous inquiétez
je
pas.
Je compare pas le comportement de cette personne avec du harcèlement.
Non, mais t'inquiète pas, mais c'est les mêmes patterns, de toute façon, c'est les mêmes schémas toxiques.
Il y a eu des personnes qui ont pas été payées, qui ont été licenciées, des trucs comme ça, à tour de bras, bref. Bah, tout ça pour dire que pour l'urbanisme, c'est vrai que l'échevin de l'époque nous avait dit un truc surréaliste du style « Ah ouais, mais il y en a plein qui sont pas en règle, mais bon, je peux quand même pas les faire fermer et tout, machin. » Mais par contre, nous, pour ouvrir, c'était le parcours du combattant. Je suis allé, je sais pas, c'est moi qui ai fait les permis d'urbanisme. Je sais pas combien de fois je suis allé. J'ai même été à une formation pour remplir mon permis, etc., machin et tout, qui au final est tombé à la poubelle parce qu'on a perdu le local et tout. Ça m'a quand même aidé pour faire les autres permis. Mais et pour savoir ce qui était ok, ce qui était pas ok, ce qui nécessite un permis. Par exemple, maintenant, si sur la devanture on veut mettre une enseigne qui dépasse quoi,
métallique, tu vois,
un truc métallique ou un genre de néon machin,
tu sais quel formulaire tu dois remplir.
Je sais quel formulaire je dois remplir et je sais que j'en ai rien à foutre de le remplir parce que de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça, en fait, qui est un peu horrible.
Concrètement, j'étais en formation pour remplir un permis. Il y avait un mec qui était là et qui montre des photos de l'établissement qu'il avait déjà. La personne, elle a dit, ça, c'est... elle m'a dit, monsieur, mais ça, c'est pas en règle, ça, c'est pas en règle, ça, c'est pas en règle. Mais il y avait déjà un établissement. En fait, c'est pas compliqué. À Bruxelles, c'était de la thune.
C'est de la thune, ouais.
Ils ont rien à foutre de l'urbanisme. Nous, si on avait eu de l'argent, je veux dire, on a payé un an de loyer dans le vide. Heureusement, c'est pas un loyer extrême, imaginons que...
Mais pour des gens comme nous...
Tu vois, t'as un loyer à 3000 euros par mois, imaginons, tu vois.
Ouais, mais tu dois aussi
12 fois 3000.
Payer ton loyer où t'habites.
Exactement.
Voilà. Continuer à bouffer.
Ouais, exact.
On était bien dans la dèche, en tout cas.
On était bien dans la merde.
À cause de ce truc de permis à la con, on a failli mettre la clé sous la porte avant même
d'avoir
ouvert. Alors qu'on était en train de louer le bazar tu vois. Et puis, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû envoyer... Il y a un mec de Bel RTL qui nous a pris un peu...
En fait, c'est moi, à l'époque, sur Facebook, je taguais des échevins. J'en avais rien à foutre. Je faisais des gros statuts et tout. Et on me dit oui, oui. Et en fait, c'est pour ça qu'on d'abord on a eu rendez-vous avec les chevins de, à l'époque, le mec du MR là. Vous ne voyez pas, mais j'ai haussé les sourcils. Et voilà. Et on a vu que rien ne bougeait. Et en fait, à un moment, ben, j'ai mis mon statut en public et j'ai commencé à recevoir des messages de gens. Bon, c'était pas du tout des coffee shops ni rien, mais quelqu'un pour une boucherie, quelqu'un pour un restaurant, tous dans la même situation. Et là, je sais pas, il y a un journaliste adorable qui nous a pris un peu sous son aile, etc. Et en fait, on m'a donné le numéro de On n'est pas des pigeons. Une autre émission et surtout que j'allais passer à la radio. Et donc, j'ai mis un statut. Mais ça, c'est un truc de malade. Hein. J'ai mis un statut en disant... Ah, écoutez-moi demain à 9h30 sur
BLRTL,
sur ce que c'est de vouloir ouvrir un établissement à Bruxelles. J'ai reçu un message du journaliste qui nous a dit en disant « Oui, j'ai eu contact avec je sais plus qui, apparemment ça a été. » En fait, si vous vous connectez sur le site de la commune, vous pouvez regarder quand est-ce qu'il y a les auditions en fait pour votre dossier, on va dire. Et nous, on n'était pas du tout prévus dans les journaux. Mais vraiment, on n'était pas prévus pendant 3-4 mois. On regardait, on n'était dans rien. Et là...
C'était le suivant.
Ben, en fait, on nous a dit c'est bon, ça a été accepté.
On avait de quoi payer encore un mois de loyer, grand max.
Et c'est arrivé. Et on nous a dit voilà, c'est bon, hein, le truc est passé, vous pouvez ouvrir et tout. Et en fait, c'est hyper triste parce que ça veut dire que t'es obligé.
On fait chier.
Mais nous, on avait autre chose à foutre. Et je veux dire, et puis aussi, ça demande de l'énergie. Et c'est chiant. Et tu dois râler. Et tu dois mettre des trucs sur Facebook. En fait, tu dois faire la guerre quoi, pour qu'on t'écoute. Et en fait, mais c'est pas normal, c'est chiant. Quoi.
Le pire, c'est que l'audition, ils nous ont expédié au bout de 10 minutes. On avait écrit tout un texte pour un plaidoyer.
On était stressés comme tout.
Et nous, ils nous ont dit « Bon, je vois qu'il y a une ventilation. Bon, il faut faire ça vraiment bien dans les règles, de mettre au-dessus des trucs. Bon, voilà, ok.
Voilà, allez, au revoir.
C'est bon. C'est parti.
Putain, quelle aventure.
Oui, c'était vraiment une grosse aventure.
On a dû faire les travaux qui ont été retardés à cause du Covid.
Ah oui, ça aussi, c'était
quelque chose. On a ouvert en période de Covid. Et donc en fait on avait envoyé des mails et en gros on a reçu des réponses, on a dit ok machin c'est accepté et tout, on avait déjà ouvert et tout on a reçu notre autorisation de autorisation d'exploitation, un truc comme ça, un papier plastifié, autorisation d'exploitation RECA, je sais pas quoi. 2 ans et demi après l'ouverture.
C'est ça, le truc que tu dois coller devant, là. Le truc bleu, le papier.
Non, pas le truc bleu, ça, on l'avait déjà, c'est encore autre chose. Okay. C'est encore un autre papier.
C'est le même, sauf que l'autre bleu qu'on a reçu de l'AFSCA, ça, on l'a reçu direct.
Oui.
Par contre, celui de la ville, par contre, on l'a reçu 2 ans et demi après.
Enfin, voilà, du coup, ça prouve vraiment que ça aussi, c'est un gros souci à Bruxelles, c'est, enfin, et pas qu'à Bruxelles, en fait, partout, c'est que, comme disait Lulu, en fait, si t'as de la thune et que t'as des contacts.
Ouais, ouais.
En fait, il n'y a pas de souci, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, ben, dès que tu es de la classe ouvrière, parce qu'on est de la classe ouvrière et que tu as envie d'autre chose, je dirais pas de quelque chose d'un peu plus grand, mais tu vois, tu te dis, bon, allez, j'ai envie de vivre de mon rêve, j'ai envie d'être mon propre patron, parce qu'à chaque fois, on te dit, non, mais il faut travailler. Si tu es ton propre patron, tu vas devenir riche, et etc. Donc, on te vend un peu ce truc. Et en fait, ben, on te met quand même des bâtons dans les roues pour y arriver, tu vois. Et encore même maintenant, même si notre motivation première, c'est pas genre de devenir riche, quand on voit les horaires qu'on fait, on se dit, mais en fait, les gens qui disent ça, c'est des... De toute façon, vous allez quand même biper. C'est des qui, de toute façon, sont quand même des fils de riches. Donc, pour eux, c'est facile pour eux après de dire, mais c'est bon, il suffit juste d'ouvrir des coffee shops et tout. Tu payes tes étudiants super mal, tu sers de la merde, t'es jamais là, t'inquiète, tu vas t'en faire de la thune.
Parce que ça montre aussi, au-delà de, c'est putain de compliqué de faire exister ce genre de projet quand on n'a pas les passe-droits, c'est que vous êtes surtout ultra déter.
Ultra déter est aussi un truc qui a été méga difficile. Quand on allait défendre nos projets dans des banques, aussi dans des organismes pour nous aider au financement écologique, etc., pour les jeunes, tout ce que vous voulez, etc., on est vraiment genre à Bruxelles, quoi. C'est un truc de ouf. Déjà, les gens nous voyaient débouler, comme on est. Ils comprenaient pas le projet. Ils comprenaient pas le nom du projet, parce qu'on devait avoir des mood boards. Donc, notre mood board, bah, il était comme vous voyez le café maintenant, quoi. Ils comprenaient pas. Ils étaient là, genre, OK, mais pourquoi Lucifer Lives? Mais c'est un endroit vegan, d'accord. Pourquoi le... Ah, OK. Et les affiches de films et les affiches de métal, on était là. C'est juste un coffee shop, normal, où tout est vegan. Et juste, il y a une déco un peu atypique. D'accord. Mais du coup, quel est le rapport avec le véganisme? On était là. Mais il y en a pas, en fait. Il y en a pas. Et en fait, ils voulaient pas comprendre. Et ça a été un truc qui nous a aussi blindé retardé. C'est que, en fait, je pense que Bruxelles, ils veulent des trucs lisses, ils veulent des trucs passe-partout. On n'est pas à Berlin ici, on n'est pas à Londres et tout. En fait, c'est tout. Les gens n'aiment pas prendre des risques, en fait, tout simplement. Et ça a été un truc quand on a lancé le projet tous les deux. À un moment, il a fallu qu'on prenne une direction. Et on s'est dit, bon, on ouvre notre café, qu'est-ce qu'on fait, vraiment? Est-ce qu'on fait un truc qui va plaire à tout le monde, à la grande audience, mais au moins comme ça, on ne prend pas risque? Ou est-ce qu'on y va? Et on y va, quoi.
Mais c'est vous, quoi.
Et au moins, et Lucas m'a dit, putain...
Je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de débat. Hein. Je crois qu'on avait dit, on
vous fait notre truc direct.
Quand même, on a quand même... Oui, enfin, moi, je me suis quand même posé la question, en tout cas.
On s'était dit, on fait un truc à notre sauce, on ne le fait pas, quoi, tu vois.
Exact.
Même si je comprends ce que tu veux dire, mais...
Tu t'es posé la question au moment de savoir est-ce que on essaye d'ouvrir, enfin de rendre le projet un peu lisible.
Oui, voilà, c'est ça.
De rendre lisible auprès des gens, quoi. Pour que voilà, les gens comprennent que c'est vegan et donc il fallait mettre, je sais pas moi.
En fait, il faut absolument que ton logo soit une tortue et que t'aies le mot vegan dans ton établissement, en fait. Voilà, c'est ça. Ou alors, non. Maintenant, attention, on est en 2023. Vegan, c'est négatif.
Ah oui.
Donc maintenant, ça doit s'appeler plant-based. Parce que c'est moins agressif pour les gens, tu comprends? Okay. Alors que quand même, à la base, ne pas manger les animaux, c'est quand même, les animaux, pardon, c'est quand même un...
C'est putain d'agressif.
C'est quand même, oui, c'est ça. Oui. Et décider de pas les manger, à la base, c'est quand même un positionnement politique aussi et social, du coup, parce que les animaux font partie de notre écosystème et qu'on est tous ensemble sur cette planète. Ce n'est pas que la nôtre. Et d'ailleurs, on la nique bien. Donc voilà, mais ça, ça aussi c'était compliqué d'ouvrir. Mais on a réussi. Et je vous avoue qu'il y a quand même des choses qui sont quand même pas mal jouissives. C'est qu'au début, il y a des gens qui croyaient pas du tout en nous. Il y a des gens qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues aussi. Je rentrerai pas dans les détails, mais franchement, je vous jure, ça a été genre... C'était chaud.
Il y a eu des réalisations pendant tout le cheminement vers l'ouverture, mais...
Mais ouais, comme je le disais, moi en fait vous m'impressionnez parce que vous êtes hyper déter et puis enfin voilà, vous gérez ce truc à deux qui est quand même enfin c'est un business quoi, donc c'est pas de tout repos. Ah non. et j'allais où avec ça? Attendez. J'ai perdu mes idées.
Mais j'allais rebondir sur le fait d'être déter.
Ouais.
Parce qu'on parlait de permis d'urbanisme tout à l'heure et je pense que c'est intéressant de le mentionner, c'est que c'est vrai qu'on a eu pas mal de gens aussi qui nous disent comment vous avez fait bazar machin. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient ouvrir peut-être des trucs vegan. Peut-être que ça a inspiré des gens. Mm-hmm. Peut-être juste ils savaient pas où commencer, ils savaient pas par où comment aborder le début de leur projet. Donc on nous a posé pas mal de fois la question où est-ce que je dois aller machin. Vous pouvez m'aider pour faire ci faire ça. Là où je voulais en venir, c'est que j'en ai pas vu beaucoup qui ont abouti.
Mmh. Ouais.
Et je pense surtout qu'en fait, le problème de la Belgique, je pense que toutes les communes sont déjà à Bruxelles, par exemple, ouvrir à XL, ouvrir à Bruxelles 1000, ouvrir à Schaerbeek, c'est différent parce que c'est différent urbanisme, etc. Mais je crois qu'en Belgique, de toute manière, c'est un peu la même gangrène. C'est que, de nouveau, si t'as de la thune, ça passe. Et justement, tu peux contourner les règles. C'est ça le problème. Et donc, finalement, les règles, elles sont pas du tout utiles, quoi. Par exemple, les règles de l'urbanisme dans ce cas-ci. Et si t'en as pas, tu te retrouves comme nous à payer 12 mois de loyer dans le vent. Et donc, en gros, je pense que le véganisme à Bruxelles, c'est beaucoup de gens comme nous qui, c'est pas forcément des gens riches. Et le nombre de personnes qui voudraient éventuellement se lancer sont bloquées parce qu'ils sont pas forcément des terres, parce que ils ont pas, nous, je dis pas qu'on avait des moyens, je dis qu'on avait pas beaucoup de moyens, mais on avait quand même un petit peu de moyens, parce que sans ce petit peu de moyens, quand même, qu'on a bossé pour, etc., on a eu un peu d'aide. Mais sans ce un petit peu de moyens et un petit peu de chance dans toute la malchance qu'on a eue, sans ça, on n'ouvrait pas, on a failli jeter l'éponge plusieurs fois, finalement. Ouais. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'aborder en parallèle le fait qu'on soit déterminé et le fait que je trouve qu'il y a des villes où on est allé en se disant, c'est dingue, à Prague, il y a 100 et plus établissements vegan. On est allé il y a genre 4 ans. 100 et plus établissements vegan. À Bruxelles, il y en a 10, comme ça. Mais Prague n'est pas une ville gigantesque par rapport à Bruxelles ou quoi. Et qu'est-ce qui fait que à Bruxelles, on est tellement en retard à ce niveau-là? Bah, je pense que c'est ça. C'est pas forcément la mentalité. Parce que voilà, des gens qui veulent manger vegan, qui aimeraient bien ouvrir des établissements, il y en a. Mmh. Mais juste... voilà, c'était pour clôturer le sujet de l'urbanisme un peu foireux à Bruxelles, je trouve.
C'est ça.
Mais là, maintenant, vous êtes quand même genre hyper fiers de ce que vous avez fait.
Oui, c'est vrai que des fois, on a un peu du mal à se... Maintenant, ça va mieux, mais c'est normal parce qu'on entame notre 4e année, donc il serait peut-être temps que je snap out of it, quoi, de me dire qu'en fait, oui, bah voilà, on y est, etc. Mais c'est vrai que on a tellement été pris dans la machine les trois premières années que ouais, pas trop eu le temps de, en tout cas moi personnellement, pas trop eu le temps de d'assimiler que ça fonctionne, enfin que ça, oui, que ça fonctionne. Mais maintenant, oui, enfin, ça y est, je me rends compte, ouais, ça marche bien. On est, moi en tout cas, je suis très fière, je suis très contente. Et ouais, ça demande énormément de travail, beaucoup de sacrifices. Ça, c'est des choses aussi que les gens ne voient pas. Mm-hmm. Souvent, les gens imaginent que d'être patron d'un coffee shop, c'est super stylé. Quand ils viennent chez nous, ils sont là, oh, il y a du métal et du rock, ils ont des tatous, ils sont habillés comme ils veulent, et la déco est trop genre dingue, etc. Et oh, c'est trop mignon, il y a des cookies. Et en fait, genre notre vie en dehors de ces 10% que les gens voient, c'est en fait c'est un business et on travaille et en fait on est des patrons.
Mm-hmm. Sauf... genre vous êtes debout à 5h du mat pour commencer à faire à manger pour
moi on n'a pas les mêmes horaires, mais moi par exemple oui, je me lève à 6h et je suis à 7h en cuisine.
C'est ça.
Et le café ouvre à 10h, mais donc dans ces 3h avant l'ouverture, bah déjà je monte tous les gâteaux, j'ai cuit tous les cookies, je prépare les sandwichs, je fais la soupe, je prépare le plat de la semaine. Voilà, parce que tout est fait dans cette petite cuisine et tout est fait par nos petites mains. Donc
c'est ça. Et t'es seule en cuisine à 7h?
Je suis seule en cuisine. En fait, la semaine, je suis seule.
Ouais.
Mais par contre, le week-end, c'est plus moi qui l'ai fait. Et là, c'est mes secondes avec mes étudiants.
Okay. Non, moi, je me lève jamais à 5h du mat, par contre. Mais Momo, oui. Mais ça, c'est vrai aussi que c'est un choix qu'on a fait. C'est qu'on on a quand même pu se prendre des jours off.
Ouais.
C'est important, je pense.
Mais c'était un choix. Ça veut dire que financièrement, ça nous a aussi coûter vachement. Ça veut dire que à un moment on a dit ok, est-ce qu'on continue à travailler comme au début et on va vers un truc où on va en avoir marre de venir travailler.
Moi j'y arrivais plus en tout cas. Voilà. Je pleurais beaucoup et même si j'étais très heureuse, ouais, mais
ou est-ce que on passe à une étape suivante, on se met un peu plus de trucs, on se met un peu plus de jours off pour nous, on se prend un peu plus du temps libre. Et est-ce qu'on met des gens à notre place? Mais du coup, forcément, on se rémunère pas de la même manière, c'est évident, quoi.
En fait, il faut choisir, en fait. Voilà. C'est soit t'es seul et tu charbonnes. Donc, on a fait ça notre première année, mais c'était beaucoup du takeaway parce qu'il y avait encore le Covid. Ouais. Puis après, il y a eu à manger sur place, etc. Et puis surtout, ce qui était vachement épuisant, ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'à la base, le projet, ça devait être petit coffee shop de quartier avec quelques gâteaux et peut-être on s'était dit allez une petite soupe, une petite quiche, mais vraiment un truc easy et tout. Sauf que et on est très content et je touche du bois, j'espère que ça va continuer comme ça, mais je veux dire on est quand même passé de maintenant en fait ma carte salée prend plus de place que ma carte sucrée. Mais ça me fait plaisir, hein, ça veut dire que je cuisine bien et que les gens sont à fond, mais c'est ça aussi qui a fait que à un moment on a un peu presque perdu le contrôle du projet, c'est que on a ouvert et que c'était un délire. Et comme il a dit, en fait, à un moment, il a fallu faire un choix. Est-ce qu'on travaille beaucoup et du coup, on arrive à économiser, etc. Mais moi, je sais en tout cas que moralement, c'était plus possible, quoi. J'avais perdu du poids, je pleurais tout le temps, alors que c'était mon projet et que j'en ai toujours rêvé. Mais en moi, faut trouver une espèce de balance, en fait, entre la vie professionnelle et la vie privée. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est vrai que maintenant, des fois, financièrement, surtout, il y a eu l'inflation. Et puis, plus il y a du monde, plus il faut des employés. Et puis, comme nous, on fait tout maison, forcément, c'est plus facile quand t'achètes déjà fait ou alors que tu te fais livrer des pâtisseries toutes faites par un autre indépendant. Tu mets juste des étudiants derrière la caisse et en cuisine, il n'y a rien à faire. Tu vois, c'est un choix. Je ne critique pas, mais nous, c'est pas la direction qu'on a prise. Et du coup, c'est vrai que, voilà, ça, c'est des choix qu'on a fait éthiques et pour servir de la bonne nourriture aux gens. Mais du coup, ça nous coûte énormément.
Ouais.
Et donc, voilà. Après, heureusement, notre motivation première, c'est pas l'argent. Parce que si c'était le cas, je pense qu'on aurait déjà arrêté, quoi.
Oui, vous auriez fait différemment.
Voilà, oui, exactement. Ouais. Après, ça va, je veux dire, on en vit, tout va bien.
On serait devenus les gros cons de patrons. Oui, quand...
Voilà, on serait devenus des gros cons de patrons, ce qui n'est pas le cas. Mais
après, une motivation, c'est quand même l'argent, parce qu'on n'a pas envie de travailler comme zinzins pour rien du tout.
Mais c'est pas d'être les plus riches de la rue, quoi. C'est de pouvoir vivre de ce que vous faites.
Exactement, voilà, et de pouvoir mettre un peu de côté, et de pouvoir penser à un après aussi, et parce que on a d'autres projets sur le côté, que ce soit professionnel ou même privé. Et voilà, tout ça, je veux dire, on travaille dur, etc. Mais on travaille dur aussi pour quelque chose, c'est pas seulement on est dans le moment, évidemment faut pas non plus trop penser au futur, sinon tu profites pas de l'instant non plus, mais encore une fois c'est une question de balance, il faut quand même savoir pourquoi tu le fais.
Ouais.
Et voilà quoi, donc
mais d'ailleurs tu me sers la transition sur un plateau de bois maintenant que le café est lancé, enfin je dis pas qu'il y a pas de travail derrière hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que vous avez sans doute envie de, encore de développer plein de choses, mais vous avez déjà des idées, des envies de parce que t'en parlais de l'après, tu vois, est-ce que c'est je sais pas d'ouvrir peut-être un deuxième dans une autre ville ou
Alors on nous a beaucoup demandé, on nous demande souvent d'ouvrir d'autres Lucifer, notamment en Belgique, etc. Mais en fait pour nous, Lucifer, c'est, en tout cas pour moi, je vais pas parler pour nous, parce que peut-être lui a pas la même vision que moi, mais en tout cas pour moi, Lucifer, c'est genre notre bébé, où on a mis toute notre âme, etc. dedans. Mais comme je l'ai dit juste avant, en toute honnêteté, on a fait des choix éthiques qui font que ça demande énormément d'énergie, énormément de présence d'être là. Et en fait, déjà en gérer un, ça nous demande énormément.
Oui, ça, tu peux pas.
Donc un deuxième non. Et je n'ai pas envie de devenir une patronne qui, en fait, ne vient plus jamais, laisse complètement ses employés avoir des stress qui ne sont pas des stress d'employés, en fait. Parce que souvent, ça se fait beaucoup, c'est qu'on te dit, ah, je te mets employé, t'inquiète, t'es le premier employé. Et en fait, tu te retrouves avec un salaire de, je dirais pas de misère, mais un salaire normal, mais par contre, t'as des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. T'as voulu être patron, pour moi, voilà, t'as voulu un vélo, tu pédales, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc on a d'autres projets, par contre, c'est vrai qu'ils sont liés à ça. Là, je suis sur un bouquin de cuisine vegan.
Ah, super.
Et j'aimerais bien aussi travailler sur un format vidéo, en fait, sur Lucifer. Et une fois par mois, faire des petites vidéos d'une minute pour donner des tips ou donner une recette. Voilà, donc je suis trop là-dessus. Cool. Bah, j'espère que ça va se faire en tout cas. Ouais. Donc je suis là-dessus, des recettes véganes très très simples, parce que souvent aussi on a tendance, même moi hein, qui suis végane, des fois je me suis déjà acheté des livres, t'ouvres et on te dit super easy, alors voilà, t'as besoin d'un sucre de coco bio que tu dois aller chercher au sommet
ouais, c'est ça.
Des trucs vraiment, alors quand tu regardes, tu dois aller dans des bio shops et puis le gâteau il te coûte mais c'est abusé quoi. En fait ben non, il y a pas que, enfin je veux dire même classe ouvrière, en plus avec l'inflation et tout, enfin je veux dire, pour moi t'es quand même censé, même c'est pas forcément entre guillemets, enfin chez nous c'est des bons produits, c'est pas ça, mais je veux dire, quelqu'un qui n'a pas les moyens, peut-être qu'il a aussi envie de faire des plats véganes, et en fait il a le droit, en allant au mais Lidl, surtout, de trouver des, tu vois ce que je veux
surtout
dire,
quelqu'un qui est nul en cuisine, arriver à faire un truc en ayant pas les compétences de cuisine. Par exemple, moi je suis nul, par exemple.
C'est ça, le classique 4 quarts, le gâteau le plus simple à faire.
Voilà.
Que ce soit facile à faire une version vegan du 4 quarts, quoi.
Mais qu'il soit bon aussi.
Et qu'il soit bon.
Qu'il soit bon aussi, ouais, c'est ça. Donc voilà, je suis là-dessus. Et puis, on a un autre projet aussi, mais ça c'est.
Ça c'est en plus le feeling. Il y a des fois, on a envie de se lancer. Il y a des fois, on n'a pas envie de se lancer, donc on va voir un peu comment.
En fait, ce qui est plus concret, c'est vraiment mon livre de cuisine. Et mon format vidéo, qui sera du coup complémentaire à Lucifer, mais pas totalement. Et puis, on a un autre projet où ça, on préfère pas le dire encore parce que on n'est pas seul et que ça, par contre, c'est vraiment encore au stade embryonnaire, mais c'est vrai que c'est un...
C'est beaucoup d'investissements.
Oui.
C'est un
film d'horreur. C'est un film d'horreur. Vous avez
Justement, parlant de film d'horreur, si tu veux, après, tu peux... Ça n'a rien à voir.
C'est pas ça, non.
Mais par contre, Lulu aimerait bien tourner un court-métrage.
Ah!
D'horreur. Ouais. Ça, on peut en parler après, ouais.
Oui, c'était après. C'était dans les questions.
Mais je veux dire, oui, comme il dit, c'est encore beaucoup d'investissements. Et du coup, on aimerait bien. Mais ça veut dire que, de nouveau, on doit être présent de l'autre côté. Si on ouvre autre chose.
Le temps libre qu'on s'est pris, on le perd.
Ouais.
Parce que du coup, en fait, on est patron, on est RH, collègue, etc.
Ouais.
Parce que c'est nous qui faisons les plus gros chiffres quand même au café. Hein, c'est pas nos employés.
Mmh.
Nos employés, ils font des shifts, mais ceux qui font les plus gros shifts, c'est nous qui travaillons le plus. Donc, en gros, les jours qu'on a libres, bon, déjà, il y a tout ce qui tourne autour du café.
Est-ce que c'est déjà vraiment 100% libre? C'est ça la question.
Les jours libres qu'on a, entre guillemets, c'est aussi du taf, parce que engager des gens, ça demande aussi du travail. Il faut gérer les gens, etc. Et puis, du coup, on se dit, est-ce qu'on se lance vraiment dans un autre truc et qui va nous prendre du temps, machin? Est-ce qu'on est vraiment autant à fond ou pas? On va voir. On se laisse un peu évoluer. Quoi.
Surtout avec ce que t'expliquais aussi sur la balance, c'est, le fait que ces jours off soient nécessaires, c'est pour pouvoir continuer sur du moyen et long terme, quoi, pour pas se cramer.
Exactement. En fait, je pense aussi que des fois aussi, c'est fort lié à notre société où on veut que tout aille très très vite. Quand on fait un truc, en fait, faut réussir tout de suite maintenant. que ce soit le sport, la musique, peu importe. Et puis, et comme tu dis, oui, en fait, du coup, bah, je préfère ralentir un petit peu et me dire, en
mais
fait,
que ça tienne, quoi.
Et que ça tienne, quoi. Mmh. Et si ma carrière là-dedans, enfin, notre carrière, on l'a fait sur 15 ans, mais c'est pas grave, en fait. Et puis, on est encore jeune. Mmh. Moi, j'ai 31 ans, lui, il en a 34. 35?
45.
Non, mais 34. Voilà, je veux dire, c'est ok, quoi, c'est, donc oui, faut pas se cramer. Et puis aussi, on essaie d'avoir un rapport avec le travail. Moi, je sais que pendant un moment, enfin, les premières années, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment genre mon but ultime, etc. Puis en fait, je suis un peu réussi à sortir de cette pression aussi, qui est une pression mm-hmm. sociale de girl boss, etc., machin, il faut charbonner. Je suis quelqu'un qui aime bien le travail et je pense que là où on en est aujourd'hui, ça le prouve aussi. Mais la santé mentale aussi, on la met un petit peu trop de côté. Mm-hmm. Et je pense que... Mollo.
Bah, c'est pour ça aussi que je suis contente qu'on puisse échanger ensemble, parce que même si nos business sont pas du tout du même ordre, j'ai l'impression qu'on est quand même très fort dans le même processus. Mm-hmm. De tout faire à deux de A à Z, et même des trucs qui à la limite seraient pas dans notre scope de compétences ouais. Mais parce qu'il faut le faire, il faut bien que quelqu'un le fasse, et en l'occurrence on n'a pas de thunes pour engager des gens puisqu'on se paye déjà presque pas nous-mêmes, donc mm-hmm. on le fait. Et j'ai eu aussi la phase fatigue, pleurs, genre j'ai envie de tout foutre en l'air, alors que ben ouais, c'est le projet qu'on a créé, c'est juste trop bien, mais juste la fatigue, quoi. Mm-hmm. Et aussi du coup c'était un peu ça aussi la question, ouais, c'est cool d'être de toute façon deux personnes pour avoir la partie de voilà, ce cheer up quand les énergies sont pas les mêmes, mais il y a encore le truc différent aussi de justement être en couple et vivre ensemble, et donc en fait quand tu rentres du travail t'es quand même avec ton co-owner.
C'est vrai que des fois ça a pu être, maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que pendant un moment lui il m'engueulait pas mal parce que j'étais à la maison.
Je vais passer pour le méchant.
Non, pas du tout, parce que c'est positif, parce que grâce à toi j'ai un peu snap à le vide,
je sais
quoi.
Où tu veux en venir,
mais je veux dire, j'étais là et c'était le travail. Dès que j'avais 5 minutes je me posais devant la télé, j'étais là, non mais attends, là t'as une journée off, t'as des choses sur le feu, t'avais dit que tu devais régler ça, il faut que tu fasses ta nouvelle recette, etc. Donc j'arrivais pas à m'en sortir, quoi, et c'était vraiment ce truc de productivité tout le temps, comme tu dis, t'es seule, donc en même temps il y a personne qui peut le faire. Donc c'est très complexe, quoi, tout ça. Mais c'est vrai que être à deux. Après c'est vrai que au boulot aussi on a divisé les choses en deux. Ça marche plutôt bien. Moi je suis en cuisine, donc je suis chef de cuisine. Je m'occupe des menus, de créer les recettes, etc. De toute façon, même lui il l'a dit en rigolant, il sait pas cuisiner, il est nul, donc tant mieux. Et lui par contre, moi j'y connais rien en café, vraiment de base. Et lui est très doué, donc lui est du côté du bar. Mm-hmm. Et lui s'occupe par exemple de tout ce qui est la paperasse et tout ça, quoi.
Ouais.
Donc c'est aussi une grosse charge mentale, en fait. Ouais. Mais moi je sais que j'ai de la dyslexie, de la dyscalculie, c'est pas une blague, genre je peux pas m'occuper de la caisse, ouais. C'est un délire pas possible. Mm-hmm. Mon cerveau bug, et donc lui s'occupe de ça, et donc notre charge mentale est quand même bien séparée en 50%. Mm-hmm. Même si on pourrait croire que de tenir une cuisine et faire les commandes, etc., c'est la plus grande partie. Ben passer ces après-midi avec le secrétariat social et remplir des
ouais.
Puis je paye et tout, c'est chiant, quoi. Je veux dire, donc ça c'est son taf. Donc ça c'est quand même bien réparti. Mmh. Chacun son coin, et les hippopotames seront bien gardés.
C'est ça. Tu perds.
Et avant de jumper sur la suite, ça peut faire lien d'ailleurs. Je me suis rappelé que c'est en allant au Grouse Rock, en ayant bouffé vegan tout le long du festival, où j'étais là. Et en fait, s'il y a moyen de manger sur un festival des trucs vegan et que ça avait pas l'air ultra compliqué ce qu'ils faisaient, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est tout à fait faisable et voilà, je vais imposer à ma mère mon menu mon menu végé. Et aussi parce que c'est via ce milieu-là que j'ai vu le plus de militantisme pour la cause animale, là, en l'occurrence, et des questions comme ça. Et je sais que c'est quand même des milieux dans lesquels en termes de musique et tout, que c'est aussi des milieux que vous avez fréquentés ou que vous fréquentez encore.
Oui.
Et je sais pas où j'allais avec ça.
Hein. ça va revenir, t'inquiète, c'est
voilà.
Normal.
Voilà, et bien voilà.
Il y a pas de questions, mais vous
question.
Écoutez du métal.
Voilà, donc on écoute tous de la musique.
Tu voulais faire un lien entre le fait que je pense dans le hardcore, le métal, etc. Il y a toujours un peu, il y a des.
Mais alors c'est compliqué parce qu'en fait, justement, vu que, voilà, moi, j'y suis rentrée vers les 14-15 ans, ce qui a mené après à 16-17, la cause animale et tout. Mais, et du coup, voilà, comme je suis rentrée dedans à cet âge-là, il y avait un truc, justement, très, que j'ai beaucoup idéalisé, aussi, où, et où, ben voilà, pour, enfin, à l'école, être genre la weirdo qui écoute des musiques avec des gens qui crient, gna gna gna.
Je pense qu'on a tous eu la même adolescence.
Ben oui, c'est ça. C'est ouais. Pour ça que je sais que justement, il y a plein de liens à plein d'endroits. Donc, à la fois, il y a ça où, pour moi, ça m'a vraiment fait l'effet de « Ah, j'ai trouvé ma famille
!» Ouais.
Et en même temps, ben maintenant, plus les choses passent et plus je suis consciente de nouvelles problématiques, plus je me dis « Ah ouais, il y a quand même des gens craignos dans cette famille-là aussi. »
Non, c'est clair. Je pense que dans tous les milieux, c'est comme ça de toute façon. Mm-hmm. Et c'est clair, hein, je veux dire, même dans les milieux ouais, du métal et tout. Enfin, je veux dire, j'étais au Grass Pop. Mm-hmm. J'ai vu des mecs avoir des comportements pas du tout appropriés. Et puis, de l'autre côté aussi. Donc, c'est... Mm-hmm.
Moi, j'écoutais Lil Jon à l'école.
Je sais pas de quoi vous parlez.
Non, ça arrivait plus tard pour moi, mais bon. Mais bon, j'ai... C'est vrai que je pense moi c'est plus deux cheminements séparés, mm-hmm. d'écoute, enfin c'est ce genre de culture musicale, etc. Bon, déjà la culture musicale, je crois qu'elle vient de mon père qui écoutait un peu de tout, sauf du rap et tout ça, il a toujours détesté. Du coup, j'adore lui faire écouter. Mais je crois que c'est deux cheminements complètement distincts, mais c'est vrai que au final, ça s'est rejoint et ça m'a fait peut-être apprécier plus certains groupes engagés là-dedans. Mm-hmm. Et en même temps, je sais pas, le lien, l'association, beaucoup dans le hardcore où des gens ont des principes comme ça. Mais c'est grâce à ça que certains groupes qui sont devenus mes favoris, genre Chromax par exemple, qui parlent beaucoup de ça. Mm-hmm. Ben, quand j'ai réussi à faire le lien, c'était un peu comme une espèce d'illumination. Après, comme tu dis, dans tous les milieux, il n'y a pas de... Là, tu peux tomber sur des gens qui tu ferais pas l'association du métal et du véganisme, machin. Et trop bien. Et puis, tu vas tomber sur des gens hyper nazes partout, en fait. Mm-hmm. Que ce soit dans le véganisme, que ce soit dans le métal.
Non, de ouf. Il y a des gens qui sont véganes et en fait, c'est des gros misogynes, tu vois. Ouais. Genre, voilà. Ou alors t'as des gens, ils sont racistes et c'est la cause animale, c'est toute leur vie. Je veux dire, c'est en
bisous
fait,
Brigitte.
C'est...
Bisous Brigitte. Ouais.
Non mais c'est comme ça. Ouais. C'est.
Et ouais. Mais c'est marrant parce que du coup, bah justement d'avoir assez jeune écouté des trucs hardcore metal avec beaucoup d'émos dedans. En fait, justement, ceux qui ont passé l'épreuve du temps et que encore 15 X années après, je peux réécouter, c'est justement les 3-4 qui avaient des messages politiques engagés, pas nécessairement pour la cause animale, mais en tout cas des textes sur la justice sociale, etc., où j'étais là genre, ah oui, c'est pas ouin ouin, ma petite copine m'a plaqué. J'aime encore bien, c'est cool. Et ouais, effectivement, du coup, au collège... C'était spécial.
Non, c'est clair. Lui, apparemment, il a pas vécu la même chose que moi, mais moi, je sais que ça a été vraiment genre exagère, quoi. Genre, ouais, c'était vraiment abusé, quoi. Genre, j'étais à l'école européenne et ouais, il y avait pas beaucoup de gens qui écoutaient du métal et tout ça. Et ouais, début 2000, en fait. Hein, mm-hmm. Bah oui, hein, je veux dire, le nu metal, mm-hmm. On a tous écouté la même chose, quoi. Avril Lavigne, j'étais super fan aussi. Et oui, c'est, je sais pas, c'est fou. C'est pour ça que maintenant, sans vouloir faire ma rageuse, mais tant pis si j'ai l'air d'une rageuse, je m'en fous. Mais c'est vrai que maintenant, bon, il y a une espèce de revival que je trouve très chouette. De toute façon, il y a ça plus ou moins tous les 20 ans. Mm-hmm. Donc ça, c'est normal. Mais par contre, c'est vrai que j'en avais fait d'ailleurs une story sur mon compte privé où j'avais passé un petit coup de gueule. Mais juste, c'est toujours très marrant quand tu vois les gens qui t'ont un peu bully à l'école, qui sont foutus de ta gueule et qui, en fait, maintenant sont en mode « Putain, j'adore Blink ». Non, mais Blink, toute ma vie, en fait. All the small things. Voilà. Non, mais un sup, en fait. T'as envie de leur dire, genre, super, mais tu te souviens quand tu te foutais vraiment de ma gueule, quoi, je veux dire, c'est... Oui, voilà. Donc, évidemment, moi, je suis contre les gens qui gatekeep les choses. Je trouve ça nul et que... je trouve ça bien de partager les choses, mais c'est vrai qu'aussi, je trouve qu'il y a une, en tout cas pour moi, il y a quand même genre une espèce d'héritage du fait que, en fait, de base, en tout cas avant, hein, quand on avait genre 12, 13, 14, 15 ans, un peu les métalleux et tout, c'était un peu les, on était un peu les losers. Hein. Franchement,
ouais.
C'est pas pour rien que, franchement, quand tu regardes dans les films, le début d'année 2000 et tout,
c'est vrai.
Il y a toujours une goth ou un goth, c'est un gros loser, quoi. Mais même, c'est parce que c'était notre réalité et en fait, on nous traitait de weirdo et c'est pas, et c'est plus Halloween, c'est pas encore Halloween, tout le temps, et Morticia, alors que Mercredi Adam, une fois, on m'a dit ça, meilleur compliment. Merci. Donc, t'essaies de m'insulter, mais en fait,
plaisir,
en fait, ouais. Je flex à fond, quoi. Mais voilà, mais c'est.
C'est toujours le cas dans, dans Stranger Things, ben, le gars là qui fait son solo de Metallica complètement ouf là.
Ah, Eddie.
Eddie,
ouais, c'est un super héros. Bah, c'est
ouais, mais
c'est...
jusqu'au moment où en fait, se transforme et devient un super héros, genre tout le début, c'est genre c'est enfin.
C'est un gros sataniste.
C'est qui ce, ouais, ce weirdo
ouais,
quoi.
Exactement, ouais. Donc ouais. Oui, mais c'est moi, je suis contente d'avoir une adolescence comme ça en tout cas. Et aussi un truc dont je suis très contente, je sais pas pour toi Lulu, mais franchement, et là on va, je vous préviens, coup de vieux arrive, hein. 3, 2, 1, on est quand même genre la dernière génération, on a connu l'arrivée d'Internet, c'est-à-dire qu'on a eu une enfance sans Internet, on a connu une enfance sans téléphone dans nos poches tout le temps. Enfin, je sais pas, c'est un délire, non? Et je suis trop contente de ça, quand même. Je me dis que pour moi, même si maintenant les jeunes font des vannes dessus, je m'en fous, mais moi, je suis trop contente de ça, quoi. Je veux dire, on a grandi, on va aller chercher nos CD.
Quoi.
Oui, c'est ça. Et en fait, maintenant que on a vu les deux côtés. Et en fait, maintenant aussi, quand tu compares, ton adolescence avec les adolescents maintenant, enfin, ça fait un peu vieille icône ce que je dis, mais j'ai de la peine pour eux, en fait. Non, mais vraiment, j'ai vraiment de la peine, quoi. Parce qu'ils ont accès à beaucoup d'informations. Sur les réseaux sociaux, c'est très négatif, mais moi, qui vais avoir 32 ans, j'en souffre énormément, ça me rend hyper dépressive et tout. Et donc, je me dis, des gosses, en fait, qui ont ça à longueur de journée, on leur parle d'écologie, que socialement, ça va pas, que si t'es racisé, t'es dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être super pesant, quoi. Et je me dis, moi, j'ai quand même encore eu une enfance et une adolescence où, voilà, j'avais pas de téléphone. Moi, je séchais les cours. Mes parents, ils me voyaient pas avant 20, 21 heures. En attendant la journée, j'allais fumer les clubs dans des skateparks et, il y avait pas de enfin je sais pas c'était c'était une autre je sais pas c'était une autre vibe
surtout que avant tu voulais on va dire tout le monde a comme but d'être plus ou moins accepté socialement on va dire même si tu veux faire
ton outcast
entre guillemets
t'essaies de dire quoi là
mais en gros tout le monde a envie d'être un peu accepté socialement mais à l'époque du coup tu c'était quoi l'audience entre guillemets c'était la classe dans laquelle t'étais tu vois parce que tu connaissais à peine les gens de l'école et maintenant avec les réseaux sociaux vu que les gens vivent environ H24 avec un téléphone et donc leur audience c'est tout le monde vu que en fait c'est Instagram c'est TikTok et tout machin donc du coup j'ai l'impression que ça crée des maladies mentales en fait moi je pense honnêtement que il y a des gens qui sont ultra sensibles, qui sont totalement déconnectés de la réalité, tu vois. Enfin,
ouais, je pense que ce qui fait peur à beaucoup de gens aussi, c'est d'être avec leurs pensées, justement.
Oui.
Soit ils savent pas penser par eux-mêmes, soit ils ont des pensées et se retrouver face à ça, c'est difficile. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je entre pas que je déplore et ça fait un peu genre vieille conne réac, mais c'est juste que je sais pas, je suis quand même contente d'avoir été genre la dernière génération. Genre la dernière génération quand même, ça c'est stylé. Avoir une date de naissance qui commence par 1900, ça fait vraiment dinosaure, ça, mon dieu. Donc voilà,
on est
mais
de l'époque du Titanic quoi.
Exactement, non mais c'est un délire quoi. Quand on aura 70 ans, on sera vraiment des reliques quoi.
Et mais d'ailleurs en parlant de ça, moi j'ai proposé parce que j'ai deux ados, ils ont 12, 13 et 16 ans, et je leur ai proposé parce que justement je me posais ces questions-là par rapport à leur santé mentale, le fait qu'ils soient tout le temps sur les réseaux sociaux, que toute la journée ils voient des choses qui sont pas forcément toujours super gays parce qu'ils sont toujours sur TikTok, sur Insta et tout. Et je leur ai proposé, je leur ai demandé, mais est-ce que ça vous dirait pas une fois de temps en temps, et puis je prends toujours le même exemple, mais comme vous allez chez le dentiste une fois par an pour faire regarder vos dents, vous allez chez le ou la psy une fois par an pour discuter, parler, poser des questions s'il y a des choses qui vous taraudent. Et ils m'ont tous les deux dit non, je crois pas, ça va.
Ah ok.
Non, je ressens pas le besoin.
Après, ça, moi, ça me paraît, mais c'est un truc abusé à chaque fois. Et je suis mariée à quelqu'un comme ça. D'accord, il est assis à ma droite. Les gens qui n'ont pas besoin d'aller chez le psy. Oh, la chance.
Le temps et la
gagné. Non, mais ouais. Et lui, il arrive à gérer. Enfin, tout va très bien, quoi. Tu mens, non? C'est pas possible.
Ah, faut voir si. Faut voir l'honnêteté des gens envers eux-mêmes, etc. aussi, ça c'est sûr.
Mais non, je plaisante, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, hein. Je veux dire, s'ils ont, ils en sont pas le besoin, bah, tant mieux pour eux. Mais
pour clôturer peut-être la partie réseaux sociaux, alors désolé à toutes celles et ceux qui n'ont pas accès à ce magnifique feed qui sont les stories privées de Momo. mais moi j'adore justement. Enfin, tu t'en évoquais un là tout de suite, mais j'aime bien les coups de gueule et enfin ça aussi le truc de genre t'es entière quoi, tu dis les termes, il y a pas de
oui ça, ça me voilà. Après avant je le faisais en public, enfin mais puis en fait je me suis rendu compte que les gens donnent trop leur avis, ça aussi c'est un truc qui me saoule en fait. Et en fait c'est hyper intéressant pour revenir aux réseaux sociaux, c'est qu'en fait tout le monde donne son avis sur tout. Et à partir du moment où tu te dis, bah, moi aussi, je vais le faire. Attention, là, c'est genre, non, mais attends, mais là, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Ok, d'accord, mais en fait, je dis encore ce que je veux, quoi. Donc maintenant, oui, j'ai fait une liste d'amis proches. Et voilà. Je dis, mais bon, je dis rien de gravissime, mais c'est juste des fois quand les gens me saoulent, oui, je lâche des screens, je dis les choses, parce qu'à un moment, j'en ai ras-le-bol, quoi. Je veux dire, c'est.
Mais même au-delà des choses comme ça, ce que je trouve aussi hyper cool et, enfin, cool, c'est peut-être pas le mot, mais, enfin, que je trouve justement très sensé et ce vers quoi la société de manière générale devrait aller. Et je pense que ça, vous le faites sur le compte public de Lucifer, c'est des fois de dire, ce qui est tout à fait normal, genre, enfin, en fait, ici, on est des personnes, nos employés et tout, c'est pas des machines, c'est pas des animaux, genre, adressez-vous à eux de clair, manière polie et courtoise. Tout le monde fait des longs shifts, des longues journées, est fatigué, on fait de notre mieux pour bien vous servir, mais juste, soyez polis, en fait.
C'est clair, et nous, on a déjà mis des gens dehors, hein, on a rien à foutre, hein, je veux dire.
Mais je trouve ça cool parce que, justement, il y a, enfin, je sais pas, on
Molo,
est,
quoi.
Est-ce que c'est en train de se terminer, ce serait une bonne chose, mais il y a un peu un truc de, le client est roi, mais en fait, enfin, non, c'est pas parce que tu payes que ça te donne le droit d'être impoli. Oui, ça te donne le droit à un service, mais ça te donne pas une dérogation pour devenir un connard, quoi.
Non, c'est clair, des fois, il y a des gens qui viennent dans le café, et il y a pas de souci, en fait, nous, tout le monde est la bienvenue. Donc, c'est-à-dire, franchement, ouais, tout le monde est la bienvenue. Il y a pas de souci, mais la règle chez nous c'est qu'en fait tu passes le pas de la porte, il y a un mode de fonctionnement chez nous qui est que c'est commande au comptoir, les prix c'est les prix, tu t'assois, on donne ton numéro, voilà, on va pas venir prendre ta commande à table parce que c'est pas notre fonctionnement en fait tout simplement, mais on est gentil, etc. Mais il y a des clients, ils viennent et vraiment ils attendent que en tout cas c'est eux qui sont au comptoir, que vraiment on mette les petits plats dans les grands, et ils pensent qu'en ayant une certaine attitude et déjà dès le départ ils sentent que notre vibe elle est chouette. Voilà, enfin, déjà, faut revenir à ce truc, je fais une parenthèse, c'est un coffee shop. Maintenant, il y a une vague de coffee shop, où les coffee shops, ça devient presque un truc d'élite. Pour moi, un coffee shop, c'est, je sais pas, tu viens prendre un café, tu viens lire ton bouquin, tu viens te regrouper avec tes potes, tu viens manger un sandwich. C'est pas la restauration, enfin, c'est la restauration, mais c'est pas la restauration. Donc, si tu viens pour avoir genre un service, comme genre dans une brasserie étoilée et tout.
Une nappe sur les genoux.
Non, en fait, il y a pas, tu vois, je veux dire. Et donc, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui viennent. Et en fait, je sais pas, d'entrée de jeu direct, tu sens que t'es une merde. T'es une merde, en fait, hein. T'es derrière un comptoir. Et nous, oui, on les met dehors. Et Lucas, c'est lui qui m'a appris ça, parce qu'au début, je me laissais quand même vachement marcher sur les pieds, même quand on avait des commentaires, des fois, très odieux, parce qu'il y a des mauvais commentaires, il y a des commentaires insultants, odieux et tout. J'étais là, non, tu peux pas dire ça et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, en fait, ben, maintenant, j'ai la même attitude que lui. Et presque même des fois un petit peu trop, parce que la dernière fois il m'a dit, Morgane, tu peux pas crier comme ça dans le café. Mais j'ai quand même crié. Mais voilà. Mais je veux dire, en fait, Lulu, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on lui donne une certaine énergie, mais il est comme ça dans tout l'aspect de sa vie, et ça, c'est quelque chose qu'il m'a appris. Lucas, il marche genre à l'énergie, tu vois. Peu importe. Et c'est l'ambiance qu'il y a dans notre café, en fait. C'est-à-dire que peu importe ta couleur, peu importe ton identité de genre, peu importe ta sexualité, même ton niveau social et tout, tu passes le pas de la porte. Le service, il est comme ça, et tu te comportes correctement envers tout le monde. Tu vas pas être mieux traité, moins bien traité, etc. Et la règle de Lulu, c'est genre, en fait, tu me donnes une énergie, je te renvoie la même. Ton énergie, elle est mauvaise et t'es désagréable, je vais être désagréable. Et souvent, elle les voit genre, non, mais c'est pas la peine de voilà. Et là, genre, mais y a pas de problème, juste.
C'est vrai que j'ai jamais réfléchi vraiment comme ça, mais juste par contre, comme je l'avais déjà dit aussi à un moment, le client est roi, je trouve que c'est vraiment des couilles. Mais aussi le truc de l'élite dans le sens où on a un coffee shop, on n'est pas un truc machin. Enfin, je comprends que certains endroits offrent des services plus
pointus,
prestigieux, parce qu'ils décident d'offrir un service prestigieux.
Ça, c'est leur délire,
mais ça veut de nouveau pas dire que t'as le droit d'être un con. Mm-hmm. Dans tous les cas. Mais c'est clair que les gens qui sont pas corrects ou pas polis et tout. Mais même quand je travaillais dans un autre café qui était pas le mien, si tu viens et tout machin, c'est pas parce que t'es dans mon établissement et que t'as payé et que machin, etc. Mm-hmm. Si t'es dans ton droit et tout, je reconnais les erreurs, etc. Mais par contre, si t'es malhonnête, machin, ça passe pas. Je m'en fous que t'aies payé, machin et tout. Tu prends tes affaires, tu te casses. Je serais content de plus jamais te revoir. Ouais. Je me rappelle, au tout début, on avait eu un truc comme ça, un commentaire vraiment malhonnête. D'ailleurs, le couple, il s'est mis à deux. D'ailleurs, les commentaires, je fais une parenthèse, mais j'ai envie que ça disparaisse à tout jamais.
Ouais,
je veux
dire, cette terre
de nouveau,
ouais.
T'as un avis, t'as été manger dans un resto, t'as été voir un film, t'as été, je sais pas, t'as pas aimé. Tant mieux, c'est bien, va chier un coup et puis on n'en parle plus. Mais genre, t'es pas obligé de commencer à dire... Il y a des gens qui sont fermés d'esprit au point de regarder une fiche d'établissement. Ils vont lire les commentaires, ils vont dire « Waouh, exquis, machin, blablabla ». Ils vont lire 10, 15 commentaires, puis ils vont voir un commentaire « Ouais, franchement, dégueulasse, ça vaut pas la peine et tout ». Et il y a des gens qui vont se dire... Ils vont s'arrêter là-dessus, en fait. Ils vont se dire, OK, je prends pas le risque, machin et tout. Donc, en fait, là, on se rend pas compte de la portée de ça. Et je trouve que c'est vraiment de la merde, tu vois. C'est comme si moi, maintenant, je devais commenter tout et n'importe quoi. Ah, je suis allé aux toilettes là-bas. Je vais mettre 4 étoiles parce que il y avait une petite brise. Horrible. Du coup, ça pour revenir aux personnes. Qui avait dit c'était en période de Covid, ah les masques sont même pas obligatoires à l'intérieur machin, alors c'était pas du tout le cas. Ils ont été pas corrects avec mon petit frère qui à l'époque venait de commencer, je crois que c'était son deuxième jour, un truc comme ça. Et en fait heureusement des gens à la table d'à côté ont lu les commentaires,
ils ont entendu
ce qui s'est passé, ils sont venus nous défendre en fait sur les réseaux sociaux ou je sais plus quoi. Parce que moi le premier truc que j'ai écrit c'était un truc du style vous êtes malhonnête,
c'est super vénère parce qu'on était fatigué en plus, tu vois ce que je veux dire, genre
arrêtez de raconter n'importe quoi, vous voulez plus venir, c'est la bonne nouvelle du jour, un truc dans le genre. Puis bon, Morgane m'a dit ouais non machin et tout,
c'était notre deuxième jour en même temps, donc bon j'étais là genre mollo quand même. On vient d'ouvrir.
Mais bon, je crois qu'il faut juste trouver un juste milieu à ça, mais je pense pas qu'il faut se laisser faire parce que de nouveau c'est cette histoire de commentaires, cette histoire de.
Et donc ce que je voulais dire aussi par là, je rebondis, mais ça a aussi un lien avec les réseaux sociaux, c'est juste que maintenant à notre époque, on donne notre avis sur absolument tout. Je trouve ça bien d'avoir un avis, mais je crois aussi que maintenant on croit que notre avis vaut quelque chose.
Celui de n'importe qui d'autre qui n'a pas forcément les mêmes compétences. Enfin, je veux dire.
Exactement.
Oui, c'est ça.
Genre, je suis vraiment désolée, mais on peut parler, je sais pas, par exemple, d'écologie. Tu vois, quelqu'un qui a fait des études et qui a un doctorat en écologie et tout. Je suis désolée, Bertrand sur Twitter, machin. Je suis désolée. Ok, tu peux avoir un avis, il y a pas de souci. Tu peux donner ton avis, mais ça part dans des débats pas possibles.
Oui, et puis surtout, et au-delà de avoir un avis, parce qu'effectivement, c'est légitime pour tout le monde.
Évidemment.
Est-ce qu'on n'en a pas rien à foutre de ton avis? Enfin, je veux dire, est-il
exactement
nécessaire de le partager?
Et aussi, je trouve que des fois, que ce soit les avis sur les établissements, comme il dit, ou même en général, des fois, on devrait se poser et se dire, est-ce que c'est vraiment hyper nécessaire? Et en fait, on oublie que, comme tu disais, des fois, parce que c'est moi qui fais la com sur les cifères, des fois, je mets des stories coup de gueule quand on a eu genre un connard ou quoi, qu'il y a des gens, en fait. Il y a des gens qui lisent ça vraiment pour du vrai, quoi. Donc nous, des fois, quand on voit des mauvais commentaires, c'est rare, mais quand je vous disais tantôt, on a rarement des gens pas cool, mais quand ils sont pas cool chez nous, waouh, ils sont trash quand même. Mm-mm. Des fois, il y a quelqu'un qui m'a fait pleurer de nerfs, etc. Et tu te dis quand même, cette personne est venue de son temps libre venir mettre un commentaire, sauf qu'ils oublient que nous, je me lève à 6h, que ceci, que cela. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Et voilà, je trouve que tout ça, ça fait vraiment genre une espèce de boucle comme ça, les réseaux sociaux, les avis, machin, les trucs, c'est...
Mais c'est vrai que...
C'est une époque un peu bizarre, je trouve, pour se retrouver, puis on parle aussi de la santé mentale, je trouve que ça fait vraiment genre une grosse gadoue comme ça, où on essaye tous de s'en sortir, et puis ça colle, et puis on essaie de naviguer, parce qu'en plus, nous, on a besoin d'être sur les réseaux sociaux pour le boulot, et donc, mais comme on est sur les réseaux sociaux, on est super... on peut se faire... critiquer, là par exemple avec mon bouquin et mes vidéos, je sais très bien je sais dans quoi je me mets, mais il va falloir que je m'arme beaucoup, parce que si je commence à faire des vidéos sur Instagram et des reels, les vidéos, mon but c'est qu'elles soient vues et que ça fonctionne, mais du coup on va mettre des commentaires, c'est vraiment genre c'est hyper intéressant, je pourrais en parler des heures, mais genre, je trouve que tout se rejoint un petit peu, en fait. C'est un peu ça comme genre un arbre, puis toutes les racines, en fait, sont... Tu parles d'une problématique, ça soulève une autre, qui soulève une autre, qui soulève une autre, qui soulève une autre.
Ouais. Mais surtout, il y a un truc... Enfin, moi, ce que je me dis souvent quand je vois... Et sur des trucs pas graves, tu vois, justement, mettons, OK, t'as mal mangé là, la glace là était pas bonne, machin, enfin, et que je vois les pavés que les rageux écrivent, et je suis là, en fait... Des fois, à la fois, j'ai pitié, et des fois, je me dis, mais en fait, je veux leur vie, parce que c'est quoi le temps qu'ils ont dans leur vie pour
le temps.
C'est quoi votre temps, en fait? Comment ça se fait que vous pouvez écrire des pavés comme ça pour un petit truc qui vous a un peu emmerdé?
Et puis, en plus de ça, je trouve que c'est peut-être parce que nous, on travaille dans l'oreca et qu'on sait le travail que c'est, mais nous, on s'est toujours dit avec Lulu, à part si c'est passé un truc, genre, archi méga grave, genre, le ou la serveuse m'a dit un truc, super offensant, super sexiste, ou que j'ai entendu vraiment un truc méga raciste, ou je sais pas.
Ça le chauve, par exemple.
Ça vraiment, il faut qu'on en parle, hein, maintenant, dans la société. C'est un truc très important. Non,
ou
mais s'il vraiment,
y avait
je veux dire.
Un cafard dans ta bouffe ou quoi. Enfin, pour moi, ça, c'est un truc, c'est vraiment.
Bah, exactement. Mais je veux dire, là, la limite, ok, tu vois. Mais.
S'il faut vraiment avertir les gens. Oui. Mais, de nouveau, ça n'est qu'un avis. T'as pas aimé manger chez tel restaurant. Ça tombe, le Gus à côté de toi.
Il a adoré.
Donc, ferme-la, tu vois. Genre
bah, nous, des fois, dans une journée, c'est ce qui se passe. On a reçu une étoile là, il y a quelques jours. Quelqu'un, en plus, qui a écrit son commentaire d'un ton super sarcastique, quoi. Super endroit, en anglais. Super endroit. Si vous aimez vos bagels super secs, trempés dans du ketchup et vraiment, vraiment très cher. Le même jour, 5 étoiles absolument délicieux et tout.
Ça prouve l'absurdité du truc.
C'est abusé, quoi.
Ça
je
reste
veux dire.
Une question d'avis, et nous, d'opinion.
Et ce que je voulais dire par là, c'est que nous, ça nous est déjà arrivé d'aller quelque part, dans des endroits, où en fait, j'ai pas du tout aimé l'expérience. Il s'est rien passé de grave, mais la nourriture ne me plaisait pas. Je trouvais que c'était cher pour ce que c'était. La vibe était bizarre. Bref, j'ai pas aimé. Je vais pas mettre un commentaire, parce qu'en fait, ces gens, ils se lèvent quand même.
Ouais.
Ils travaillent dur. Puis même que ce soit dans le réca ou dans autre chose, en fait. Genre, c'est tout. Putain, mais sois un petit peu humain, merde. Par contre, ça m'arrive une deuxième fois ou une troisième fois ou qu'il m'arrive un truc grave, là, je le ferai. Mais sinon, en fait, c'est simple, j'y vais plus. J'y vais plus. Et si on me dit, j'irais bien manger là, et toi, t'as déjà été, bah, je dirais la vérité. Je dirais, oula, moi, ça m'a pas plu, mais bon, teste toujours, mais ça, c'était mon expérience.
Ouais. Et puis, si vous avez du temps pour laisser des commentaires, allez mettre des commentaires sur les trucs que vous avez bien aimés.
Exactement.
Faites ça.
C'est ça. Ouais.
Mais c'est la même chose comme tu me disais.
Oui, j'allais dire ça aussi. J'allais rebondir sur, enfin, juste pour faire une parenthèse, mais j'allais dire merci à ceux qui prennent le temps d'aller dire des choses sympas, s'ils ont évidemment bien aimé. Hein, mais bon, sinon je vois pas pourquoi. Mais merci aux gens qui prennent du temps à aller mettre des commentaires positifs et pas uniquement ceux qui mettent des commentaires négatifs.
Ouais.
Parce qu'au final, on peut pas faire sans. Malheureusement, j'ai déjà tourné le truc dans tous les sens. Malheureusement, on peut pas faire sans ce truc. La fiche Google, machin, ça t'amène du monde et brava. Et puis, de toute façon, même du jour au lendemain, tu peux pas dire aux gens, arrêtez de mettre des commentaires et ça se passe. Tout le monde donne son avis sur tout à tout moment. Donc, merci surtout aux gens qui prennent le temps. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui va laisser des commentaires, aucun commentaire nulle part et tout.
Ouais, moi non plus.
J'ai pas que ça à foutre, en soi.
Ouais, c'est
enfin,
ça.
Je veux dire, non, parce que ça fait un peu quelqu'un qui se prend pour, j'ai mieux à faire de mon temps. Mais c'est vrai que je préfère faire autre chose de mon temps. C'est tout. Donc en soi, tant mieux si les gens laissent des commentaires positifs et qu'ils prennent du temps pour aller écrire, surtout pour nous. Mais en soi, moi, personnellement, je sais que je vais en écrire nulle part et tout. Et je trouve que ce serait bien que personne n'écrive parce que du coup, chacun fait sa propre expérience.
Au bouche à oreille.
Et voilà. Et même si t'as une mauvaise expérience dans un endroit, t'en meurs pas. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? T'as mal mangé, t'as mal dormi dans tel bazar. Tu vois, je parle même pas de payer trop cher ou pas cher, parce que de nouveau, c'est, enfin oui, c'est comme mal dormir ou machin, c'est de nouveau chacun sa propre vision des choses. Tu vois, quelqu'un va vouloir payer autant pour faire un truc et quelqu'un d'autre va dire, ouais, moi jamais je mettrais de l'argent pour ça. Ça prouve bien que c'est chacun son avis.
C'est ça.
Donc, voilà, ça sert à rien de tourner autour du pot pendant des heures. Je trouve que les commentaires, c'est vraiment, vraiment l'enfer.
Mais du coup, c'est un truc que je vois aussi pas mal, et là où j'ai aussi pas mal d'empathie, peut-être même, en fait, plus même pour les films que pour la musique, parce que pour savoir le temps que ça prend de faire un film, et oui, après, tu peux ne pas l'aimer, à part, sauf s'il y a vraiment des films, et pas, encore une fois, un peu pareil pour avertir les gens, et donc des films qui ont vraiment des propos problématiques, mais c'est pas la majorité des films. La majorité des films, ils sont juste pas ouf, mais... Est-ce qu'il faut pour autant déverser des flots de haine sur Internet pour juste dire que le film est pas ouf?
Non, et puis surtout, je trouve quand ça se passe Enfin, peut-être qu'on va dire que je fais l'avocat du diable, mais bon, tant pis, c'est mon avis et je vais rien dire de grave, je trouve. Mais c'est juste que tu vois souvent aussi des fois quand on dit on appelle au boycott de tel film ou quoi que ce soit, ben je trouve que on oublie aussi que c'est pas qu'une personne qui fait le film. Et en fait, il y a des gens, des équipes énormes. Enfin, moi, j'ai déjà été figurante sur des films et tout ça, donc juste figurante. Je voyais genre les heures qu'on faisait dans le froid, dans le machin et tout. Et je me dis, c'est aussi genre cracher à la gueule du travail de je sais pas combien de personnes.
Ouais, et les équipes techniques.
Enfin, c'est les gens de l'ombre, en fait, que tu ne vois pas. Et je trouve que ça, c'est... Ouais, on revient à ça, genre aux avis et tout. C'est vraiment genre... C'est triste.
Chips. Salut, c'est la Morine du montage. Alors, j'avais dit que normalement c'était exceptionnel pour l'épisode précédent où on l'a coupé en deux parce qu'il était vraiment très long et voilà, comme c'était la rentrée, on s'est octroyé quelques petites libertés. Bon, ici, on s'est aussi laissé emporter dans nos discussions. Je pense que là, il est temps de faire une petite pause. Donc, on va se retrouver dans 15 jours pour la deuxième partie qui sera un peu plus courte, mais qui tombera à pic parce qu'il sera en grande partie question de films d'horreur, films de genre, donc comme ça vous pouvez vous préparer votre petite to watch list pour Halloween. Et donc voilà, je vous dis à dans 15 jours avec Damien bien sûr, et puis aussi Morgane et Lucas de Lucifer Leaves Coffee. À plus.